Tribunal, veuillez vous lever.
Tribunal.
Audience.
Signification.
Putatif.
Amiable. Juridiction. Convocation.
Magnifique.
Assignation.
La procureure.
Amiable.
Enquête. Constitution.
Juridiction.
Signification.
Incompétence.
Amiable.
Signalement. Convocation.
Relax.
Abusif.
Procureur.
Usucapitation.
La grande institution.
Amphithéotique.
Procureur.
Et juridiction.
Assignation.
Usucapitation.
Enquête.
Récitation.
Constitution.
Authentique.
Incompétence.
Exécution.
L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
Le fil d'Ariane. Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Bonsoir.
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 Bonsoir. C'est le fil d'Ariane, donc une émission consacrée, enfin une rubrique consacrée au droit et à la justice, présentée par un collectif de 4 avocates une fois par mois le mercredi à 19h30, voire un peu avant ce soir. Aujourd'hui, on va parler de la garde à vue et pour l'occasion, donc, on a invité un cinquième avocat qui pratique plus que nous le droit pénal et qui, du coup, pourra compléter notre propos sur la garde à vue avec des questions à pratico-pratiques également. Voilà. Alors du coup, la garde à vue, qu'est-ce que c'est? Une petite définition juridique. Moi, ce sera la seule partie que je fais parce que pour le coup, je pratique pas trop la matière. C'est une mesure de contrainte, donc une mesure coercitive de privation de liberté, par laquelle une personne qui est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime passible d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Donc c'est une mesure qui est grave puisqu'elle entraîne une privation de liberté. La première question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut se retrouver en garde à vue? Donc ça peut être soit suite à l'interpellation en cas de flagrant délit par exemple, ou à une convocation. Et justement, on se demandait un peu quelles étaient les... Est-ce qu'on est obligé, lorsqu'on est convoqué, de se rendre à la convocation?
Donc la question m'est adressée. On n'est pas obligé de se rendre à la convocation. Après, y a un conseil assez fort à donner quand même, c'est qu'il vaut mieux s'y rendre et que la politique de l'autruche n'est jamais bien bonne pour la suite de la procédure. Surtout si on n'a rien à se reprocher. Mais donner un conseil général, c'est compliqué aussi. Chaque dossier est un peu particulier, mais mon conseil principal, c'est de s'y rendre. Si on ne s'y rend pas, ce qui peut se passer, c'est que de toute façon, il peut y avoir un mandat d'amener. Et que là, ce ne sera plus une simple convocation, mais ce sera une interpellation à domicile, ce qui n'est jamais très agréable, et il vaut mieux à ce moment-là rendre à la convocation.
Est-ce que tu peux préciser ce que c'est un mandat d'amener ?
Un mandat d'amener, c'est délivré, je crois, par le procureur de la République, qui va mandater les forces de l'ordre pour qu'elles puissent se présenter en toute légalité à ton domicile, pour t'interpeller s'il y a des choses qui te sont suspectées.
Et est-ce qu'on peut aller à une convocation avec un avocat ?
On peut y aller avec un avocat, il faut déjà que celui-ci accepte, qu'il ait le temps. ça n'a pas un grand intérêt, parce que de toute façon, quand on est placé en garde à vue, on va te notifier des droits, comme on le dira après, et dans cette notification des droits, on va te dire que tu as le droit à un avocat. Le temps que l'avocat arrive, ils ont de toute façon deux heures, obligation de l'attendre pendant 2 heures, entre le moment où il l'appelle et le moment où il peut arriver. Donc ça ne sert à rien d'y aller avec un avocat.
Ce qu'il faut également savoir, c'est que la mesure de la garde à vue, qui n'est pas légère, doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants. C'est-à-dire soit permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, donc la personne, le gardé à vue, soit garantir la présentation du gardé à vue devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête, soit empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels. C'est vrai que lorsqu'une personne est au courant, quand la personne a conscience qu'elle a commis un délit ou un crime, elle pourrait avoir tendance à effacer quelques preuves ou quelques indices. Soit empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches. Donc là, c'est l'objectif de protéger les témoins, les proches, la famille. Soit empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices. Soit enfin garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Donc, pour qu'il y ait garde à vue, il faut qu'on se trouve dans une de ces 6 situations. La durée de la garde à vue, classiquement, elle dure 24 heures et peut être renouvelable une fois. Elle peut être prolongée jusqu'à 48 heures que si la peine encourue est d'au moins 1 an d'emprisonnement. Et cette prolongation doit être autorisée par le procureur de la République qui doit avoir vu s'être entretenu avec le gardé à vue et il doit motiver et écrire donc la prolongation. Pour les affaires qui sont particulièrement complexes et graves, on ne rentrera pas forcément dans les détails, mais il faut savoir que la prolongation peut être de 72 heures, voire 96 heures, ou même 144 heures, on arrive donc à 6 jours, en cas de risque terroriste. Et cette prolongation ne se fera pas cette fois sur autorisation du procureur de la République, mais sur celle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Si une personne est placée en garde à vue immédiatement après son séjour en chambre de dégrisement, il faut savoir que la durée ce temps en chambre de dégrisement s'impute sur la durée de la garde à vue. C'est-à-dire que si on passe 6 heures en cellule de dégrisement, on est censé ne passer que plus que 18 heures en garde à vue. Et ça veut dire aussi que on doit rencontrer le procureur de la République au bout de ces 18 heures s'il y a une demande de prolongation. Donc les 6 heures de la cellule de dégrisement comptent.
Quand tu dis rencontrer le procureur de la République, j'imagine que le procureur de la République ne se déplace pas en personne dans tous les commissariats.
Non, on est amené au tribunal et on rencontre le procureur.
D'accord.
Enfin, on rencontre.
Ça peut même se faire par visioconférence, voire par téléphone.
D'accord.
Ça suffit, ouais, même si c'est par téléphone, ça suffit. Concernant les mineurs, on s'est dit qu'il valait mieux en parler dans le cadre d'une autre émission parce que c'est pas les mêmes garanties, c'est pas forcément la même procédure. Donc voilà, ça fera l'objet d'une prochaine émission.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Il nous semblait maintenant important d'expliquer aux auditeurs les conditions pratiques de la garde à vue. Donc, que se passe-t-il concrètement quand une personne arrive au commissariat ou à la gendarmerie et qu'elle est placée pour une garde à vue ?
Alors, dans un premier temps, quand on arrive et qu'on est placé en garde à vue, on n'est pas forcément très calme ni très serein. L'interpellation ne se passe pas toujours très très bien. La première chose que les policiers vont faire, c'est quand même expliquer pourquoi il y a un placement en garde à vue. Alors ça, c'est assez officieux, hein. Tout n'est pas noté dans les PV quand on est placé en garde à vue. Il va y avoir une fouille pour essayer notamment de protéger la personne de ce qu'elle pourrait se faire à elle-même. On va lui enlever ses lacets, sa ceinture, etc. Voire parfois même complètement ses chaussures. Et puis on est censé lui notifier ses droits assez rapidement pour qu'il puisse éventuellement les utiliser s'il veut le faire. Sur la fouille, pas grand chose à dire de plus. Si ce n'est que si c'est une dame qui est évidemment placée en garde à vue, il faut que ce soit une policière ou une gendarme qui pratique cette fouille. Ensuite, c'est la notification des droits. Les interlocuteurs directs du gardé à vue seront des agents de police judiciaire. Alors je ne vais pas faire le distinguo agent officier, je ne crois pas que ce soit très intéressant pour les auditeurs, mais le premier qui va notifier les droits, ce n'est pas forcément un OPJ, ça peut être un agent. Et c'est là où ça devient un petit peu plus important, en tout cas où il faut être assez attentif aux droits qu'on va vous notifier.
Alors justement, puisqu'on parle de notification des droits au gardé à vue quand il arrive, c'est ce qui se passe tout de suite. Il faut savoir que la personne gardée à vue, quand elle arrive en garde à vue, elle doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de plusieurs droits qu'elle détient. Le premier droit, c'est on doit l'informer du fait qu'elle est placée en garde à vue. Ça semble rien, mais il faut lui dire que vraiment elle est placée en garde à vue. Quelle est la durée de sa mesure et quelles sont les prolongations dont elle peut faire l'objet?
Alors effectivement, juste pour rebondir en pratique sur ces questions-là, donc on vous a rappelé, la garde à vue en principe dure 24 heures. Pour la plupart des infractions, les services de police peuvent retenir avec une prolongation allant jusqu'à 48 heures. Effectivement, pour certaines infractions, après le seuil maximum augmente jusqu'à 144 heures maximum. Ce qu'il faut aussi savoir, alors c'est de la théorie, mais que la garde à vue est quand même censée être une mesure qui doit être justifiée dès lors qu'elle est nécessaire et proportionnée par rapport aux éléments qu'on cherche à obtenir ou les garanties qu'on cherche à préserver par la mesure de garde à vue. Je dis en théorie parce qu'en pratique, en réalité, on va quand même souvent dépendre en réalité l'intégralité des diligences faites par les services de police, des horaires aussi. Si on arrive en garde à vue à 22h, il se passera certainement rien avant le matin en termes d'audition. Voilà, donc. Mais la théorie reste quand même qu'une mesure privative de liberté est censée être toujours nécessaire et proportionnée. Et s'agissant de la prolongation de la mesure de garde à vue, effectivement, donc c'est le procureur de la République qui prend cette décision. Et alors, théoriquement, on est censé être présenté devant ce procureur, et comme on le disait tout à l'heure, c'est pas nécessairement une présentation physique, c'est quelque chose qui peut se faire par téléphone, donc le gardé à vue n'est pas nécessairement, en fait, du tout en contact avec le procureur de la République.
Alors, toujours en théorie, la personne, elle est soupçonnée d'être informée de l'infraction qu'elle est soupçonnée avoir commis, ainsi que sa date et son lien présumé. Mais comment ça se passe en vrai?
Alors, en vrai, donc toujours la théorie, c'est effectivement ça. Sachant que, je rappelle juste, pour être placé en garde à vue, l'infraction dont on est soupçonné d'avoir, qu'on est soupçonné d'avoir commis, on doit encourir une peine de minimum 1 an d'emprisonnement. Désormais, les services de police sont censés expliquer quelle est la qualification de l'infraction retenue. Alors là encore, en théorie, ben, déjà c'est une qualification juridique, souvent, donc qui ne parle pas nécessairement et qui peut recouvrir tout un tas de faits très différents, je pense.
Est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple?
Ouais. Ben, je pense notamment à l'usage de faux. L'usage de faux, c'est la qualification juridique. Mais après, concrètement, ça peut recouvrir tout un tas de différents documents qu'on a en sa possession. Passeport, acte de naissance, etc. J'ai pas d'autres exemples là en tête.
Mais... On peut prendre violence avec arme. Hein. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui tape sur son copain avec un parapluie. Voilà. Mais violence avec arme, ça fait beaucoup plus peur.
Et justement, ce que je voulais dire, c'est que la qualification, attention, qui est retenue par les services de police, de leur point de vue, c'est de l'opportunité en réalité, parce que plus ils augmentent la qualification, donc ils vont nécessairement un petit peu aggraver l'effet dans la qualification, parce que notamment s'ils ont une qualification criminelle, on peut très vite tomber en réalité sur une infraction qui pourrait être susceptible d'être qualifiée de crime. Ça leur donne des prérogatives différentes, un peu plus importantes. Donc voilà, la qualification qui va être retenue, effectivement, va impacter la procédure par la suite. Donc nécessairement, les services de police vont avoir tendance à surqualifier les faits pour lesquels la personne dont elle est soupçonnée d'avoir commis.
Ce qui ne veut pas dire que derrière, au tribunal, les gens seront poursuivis pour ces faits-là.
Bah, très souvent, en réalité, on est placé en garde à vue pour une qualification. Et la réalité, voilà, tout au bout de la procédure.
Ça arrive, oui, c'est assez fréquent.
On tombe sur quelque chose.
On revient à quelque chose de plus proche de la réalité. Il y a aussi toujours cette vieille idée que quand on est en garde à vue, il faut faire peur au garde à vue pour qu'il perde un peu ses moyens. Et comme si, quand on avait peur, on allait, ça allait être un gage de vérité. À mon sens, c'est une erreur, mais oui, ça, c'est une vieille tradition policière française.
Alors ensuite, on continue un peu dans les droits qui sont notifiés au gardé à vue. Au gardé à vue, on lui dit aussi qu'il a le droit d'être examiné par un médecin. Alors c'est quoi la finalité de ça? Est-ce que c'est fréquent en pratique? Et est-ce qu'il faut que le gardé à vue, bah, il utilise ce droit-là?
C'est très fréquent que les gardés à vue demandent un médecin, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Notamment, il y a souvent de l'angoisse, du stress quand même. Même chez les habitués, je le souligne. C'est fréquent, et le médecin va aussi devoir répondre à la question de savoir si le gardé à vue est en état d'être placé en garde à vue, ou si au contraire son état nécessite une hospitalisation, souvent ensuite d'interpellation musclée, ou simplement si c'est l'effet de violence, des rixes, etc. Ou si c'est quelqu'un qui peut avoir des soucis de santé. On a aussi souvent des toxicomanes qui sont placés en garde à vue, qui n'ont pas forcément leur méthadone, leur Subutex sur eux, et qui sont qui peuvent avoir des crises d'angoisse plus facilement que d'autres. Donc oui, c'est important. Le médecin ne va pas forcément rester très longtemps. Il est de permanence. Il fait un peu tout seul toutes les gardes à vue de la région lyonnaise. Faut pas lui en vouloir, mais c'est pas un ennemi en garde à vue. Donc vaut mieux que ça se passe bien avec lui, parce qu'il peut faire évidemment mention, pas que ça s'est mal passé, mais c'est toujours mal vu d'avoir quelqu'un qui demande le médecin puis au final qui refuse l'examen, comme ça arrive parfois. Donc évitez, demandez pas le médecin à ce moment-là.
Et après, ce qu'on peut dire, c'est qu'un des avantages de voir le médecin, c'est que ça permet aussi de faire un peu une espèce de mini-pause dans sa garde à vue.
Tout à fait, ouais. Ça permet de sortir de la cellule, et puis ce que je disais, de voir pas un ami, hein, mais l'ami est vite qualifié comme tel quand on est placé en garde à vue, ouais. Donc,
Et par exemple, est-ce que, parce que c'est des questions qu'on peut se poser quand on est en garde à vue, souvent les flics disent « Ah, mais si tu veux voir le médecin, par contre, tu risques de rester 4-5 heures en plus parce que... parce qu'il faut le temps qu'il vienne, tout ça. Alors, si tu veux que ça aille plus vite, évite de vouloir un avocat ou...
Ça, c'est très important à souligner, t'as raison. Il faut pas écouter ça. Ça, c'est du... voilà, ça, c'est pareil, c'est de la vieille technique policière. Le médecin, si tu veux le voir, tu le demandes, tu as le droit, et il arrive assez vite, le médecin. Souvent plus vite que l'avocat, d'ailleurs.
Alors, un autre droit important pour le garder à vue, c'est aussi celui de faire prévenir un proche et son employeur, voire pour une personne qui est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante. Donc, ça se passe comment concrètement ?
Bah, ça, c'est dès le départ. Dès qu'on te notifie tes droits, tu vas donner le numéro de la personne que tu veux joindre. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme tu es fouillé au départ, on va te prendre ton portable dans lequel il y a tous tes numéros. Et que maintenant, comme on a des portables, on a une mémoire virtuelle et on la garde plus sur nous. Il y a un téléphone qu'il faut avoir dans sa tête et qu'il faut pas oublier, c'est celui de la personne que tu vas appeler quand tu seras placé en garde à vue. Pas forcément celui de l'avocat, ça peut être celui de la compagne, d'un proche, peu importe. Il faut savoir aussi que le policier peut, pour les nécessités de l'enquête, refuser à ce que l'employeur ou le proche que tu as demandé à être informé soit informé justement pour les nécessités de l'enquête.
D'accord.
Juste une petite précision aussi, c'est les services de police qui préviennent le proche en question, mais l'employeur, donc le gardé à vue, n'a pas de contact direct avec l'extérieur.
Oui, c'est le droit de faire prévenir un proche, c'est pas d'appeler directement. Ouais, il faut savoir que du coup, les gens vont pas avoir la voix amicale de la personne, c'est pas eux. Enfin voilà, si vous voulez entendre le doux son de la voix de leur maman, c'est pas ça. D'accord. Alors, un autre droit qui est très très important, évidemment, pour le gardé à vue, et évidemment pour nous, parce que c'est le droit d'être assisté par un avocat. Alors, un avocat qui est l'avocat choisi par la personne ou alors un avocat commis d'office, sachant qu'à Lyon, donc il y a des systèmes d'organisation de permanence pour qu'il y ait tout le temps des avocats dispo tous les jours pour aller voir les personnes en garde à vue. Alors là, pareil, ça fait partie des droits théoriques, mais après, en pratique, comment ça se passe et justement, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme discours de la part des policiers, comme on a vu sur le médecin, sur le fait de demander l'avocat ou pas, est-ce que ça va durer du coup plus longtemps ou pas ?
Le droit à l'avocat, c'est un droit qui est très respecté par les services de police, il faut le dire. Même si on n'est pas toujours amis entre policiers et avocats, loin de là. Mais c'est surtout parce qu'il y a le parquet de Lyon, puis ailleurs j'imagine que c'est pareil, et le barreau de Lyon qui sont régulièrement en contact pour savoir comment se passent les gardes à vue, est-ce que les droits sont bien respectés, etc. Et que le parquet n'a pas envie d'une mauvaise presse. Donc oui, vous avez le droit à demander un avocat. Moi, je vous le recommande, pas pour prêcher pour ma paroisse, mais parce que mine de rien, vous savez pas comment ça se passe une garde à vue quand vous êtes placé en garde à vue, et que on a des conseils à vous donner. On en parlera plus tard, mais on a des conseils importants à vous donner. Alors, le commis d'office ou l'avocat choisi, quand on a un avocat choisi, il faut savoir, il faut pas lui en vouloir, qu'il a peut-être autre chose à faire, il a des audiences, il a des rendez-vous, voilà. Mais le commis d'office, c'est pas un avocat au rabais. S'il fait ça, c'est qu'il sait le faire. Et alors, tous les avocats ne donneront pas les mêmes conseils, mais faut toujours écouter un avocat, même si vous avez l'impression qu'il a 18 ans et qu'il sort de l'école. Il en sait toujours plus que vous sur la garde à vue. Et puis voilà, c'est pareil. C'est encore une fois, c'est aussi un visage ami qui peut un peu réconforter et puis faire baisser un peu la température. Voilà, on connaît les policiers, on peut aussi faire baisser la température avec les policiers.
D'accord. Le garde à vue, il a aussi le droit, dans certains cas, notamment quand il parle pas français, il a le droit d'être assisté par un interprète.
Alors effectivement, il a le droit d'être assisté par un interprète. C'est un droit qui doit être effectif dès la notification des droits du gardé à vue. Donc c'est tout de suite en réalité que l'interprète doit être présent pour expliquer ce qui se passe au gardé à vue, lui expliquer ses droits, donc traduire ce qui est dit par les services de police. Sinon, la garde à vue pourrait par la suite être annulée. Par contre, petit bémol, en pratique, ça c'est la théorie, les services de police sont censés faire toutes les diligences nécessaires pour trouver un interprète qui puisse notifier ses droits et assister le gardé à vue, mais en pratique il arrive soit qu'il n'arrive pas à trouver un interprète, soit qu'il ne cherche pas réellement, et dans ces cas-là, l'interprète pourrait ne pas être physiquement présent aux côtés du gardé à vue, mais par exemple notifier les droits par téléphone, voire même faire l'audition par téléphone, voilà. Donc ce qui complique un petit peu l'échange entre les services de police, le gardé à vue et l'interprète. Autre petite information, c'est que à la fin de la garde à vue, on en parlera plus tard, on a une relecture du procès-verbal d'audition. Cette relecture, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue française, doit être faite avec l'interprète à ce stade-là également. Et dernière petite précision, je le dis parce que ça a pu arriver dans certaines procédures, l'officier de police ne peut pas faire office d'interprète, c'est bien quelqu'un d'extérieur, au commissariat ou à la gendarmerie, qui doit venir en tant qu'interprète pour faire ce travail d'interprète.
Une précision quand même, vous insurgez pas trop si en revanche vous ne savez pas lire et que c'est l'officier de police qui vous lit votre audition, ça c'est légal. Donc voilà, faut pas clamer à l'injustice. Là, c'est légal. L'officier de police peut vous relire votre PV d'audition. Vous avez le droit de ne pas signer votre PV d'audition. Ça fait pas toujours très bon effet, mais puisque je suis là pour parler un peu de l'expérience pratique, il m'est arrivé une fois de conseiller de ne pas signer un PV d'audition parce que la retranscription par le policier avait été tout à fait déplorable et très loin de la réalité de ce qu'avait pu dire le client. Dans ce cas-là, l'avocat, et c'est un de ses pouvoirs, un de ses rares pouvoirs en garde à vue, il peut faire ce qu'on appelle un mémoire, c'est-à-dire qu'il va noter quelque chose sur une feuille avec un double en carbone, et le double en carbone sera annexé au PV d'audition, ce qui permet, une fois en audience, d'expliquer un peu pourquoi celui-ci a refusé. C'est pas forcément un acte de rébellion contre l'autorité judiciaire, c'est aussi parfois tout à fait légitime de ne pas signer son audition quand c'est mal retranscrit.
Et on peut demander à ce que les choses soient corrigées sur le procès-verbal. Si on estime que là, ça a mal été retranscrit, on peut dire, on peut demander à ce que ce soit modifié, non ?
Tout à fait. Encore une fois, d'où l'intérêt de prendre un avocat. Une audition, ça va dépendre vraiment de du gardé à vue, évidemment, mais aussi autant de l'officier de police judiciaire qui va vous interroger. Avec certains, ça se passe très bien. On peut intervenir au fur et à mesure de l'audition si on voit que c'est mal dicté, mal retranscrit, et faire modifier au fur et à mesure. Ou alors, à la relecture, on peut faire modifier. Si vous n'avez pas d'avocat, je suis quasiment certain et convaincu que vous ne pourrez pas faire modifier ce qu'a écrit le policier. Sauf si vous tombez effectivement sur quelqu'un de tout à fait réglo, et ça arrive. Mais oui, il faut faire très attention parce que ça donne une couleur. Parfois, la signification est la même, mais quand ça a été réécrit par le policier, ça donne une couleur au dossier. Et cette couleur au dossier, elle est très importante quand on se retrouve devant un tribunal, parce que parfois, ça peut paraître agressif alors que ça ne l'était pas. Ou aussi, le tutoiement n'est jamais retranscrit comme tel. Quand le policier te tutoie pendant ton audition, c'est jamais noté, le tutoiement. Alors, on peut le mentionner, ne pas le faire changer, mais ça nous donne un petit peu d'ascendant aussi sur l'officier qui est en train de vous interroger. Donc voilà, il y a toutes ces techniques, ils en ont, on en a. Donc c'est important de se faire assister quand on est placé en garde à vue. Oui.
Alors on a commencé à parler d'audition, mais parmi les droits justement du gardé à vue qui sont notifiés dès le début, c'est que il a le droit de se taire en fait lors de ses auditions.
Le droit de se taire, vaste débat. C'est un droit, et quand on l'exerce, quand on exerce ce droit, ça nous sera systématiquement reproché. Je pense pas qu'il y ait un magistrat qui me contredirait. Systématiquement, on va te reprocher si tu fais usage de ton droit à te taire. Alors que c'est un droit et que tu ne devrais pas avoir à te justifier d'user de ton droit. On se bat régulièrement pour ça. C'est important. Il faut vraiment réfléchir. Parce que, à mon sens, il vaut mieux se taire et s'en expliquer après que d'aller raconter absolument n'importe quoi. Si tu es interpellé en flagrant délit et que tu veux pas reconnaître les faits, il faut te taire, parce que de toute façon, il y a un moment donné, il va falloir réfléchir, ravaler ta colère ou ta frustration, et puis te dire qu'il faut reconnaître les faits, puisque tu es capté en flag. Si, en revanche, tu es interpellé parce qu'il y a ce qu'on appelle une enquête préliminaire, c'est-à-dire que il y a déjà une enquête qui est faite depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, par les services de police, ou même si tu es interpellé parce qu'il y a un juge d'instruction qui est saisi de cette enquête, là, il y a des choses. Il y a des écoutes téléphoniques, il y a des filatures, il y a même parfois des gens qui parlent, il y a des dénonciations anonymes, il y a tout un dossier derrière auquel l'avocat n'a pas accès. Tu vas voir un avocat pendant 30 minutes en entretien qui ne pourra pas te parler de ton dossier, tu le connais mieux que lui. Alors, à ce moment-là, si tu sais que tu as des choses à te reprocher, si tu sais que tu as parlé au téléphone, il faut te taire. Sauf si tu veux reconnaître, évidemment, tout de suite les faits. Voilà, ça c'est extrêmement important. Autre chose à savoir, c'est que le droit de se taire, c'est très difficile à exercer. Même quand il y a un avocat à côté, parce que les policiers continuent à poser les questions. Et ils vont faire durer. Et tu veux pas répondre, et pourquoi tu réponds pas? Et c'est une mauvaise stratégie. J'ai même une fois un officier qui a dit, l'avocat que tu as commis l'office, parce que j'en fais aussi, me dit, il te donne un mauvais conseil, là, ton avocat. T'es en train de faire n'importe quoi, là, tu es en train de creuser ta tombe, quoi. Donc, il faut évidemment, l'avocat, s'il se tait, c'est qu'il s'est un peu trompé, et là, il faut intervenir. Mais c'est pas facile à exercer comme droit, alors qu'à mon sens, il est primordial qu'on ait quelque chose à se reprocher ou non, d'ailleurs.
Alors, on continue sur les droits qui sont notifiés au gardé à vue. On lui notifie aussi son droit de présenter des observations au magistrat qui se prononce sur la prolongation de sa garde à vue afin qu'il soit mis fin à cette mesure.
Oui, alors en effet, ça, c'est, concrètement, c'est le procureur de la République, le magistrat dont on parle. Alors, on ne va pas rentrer non plus dans le débat de savoir qu'est-ce qu'est le procureur de la République, mais en tout cas, là, c'est une autorité judiciaire, on va dire théoriquement. Alors, concrètement, ces observations, elles prennent la forme d'un procès-verbal d'audition. Donc, voilà, en réalité, on va transmettre ces observations, mais via, encore une fois, les services de police ou de gendarmerie qui vont retranscrire dans un procès-verbal les observations qu'on aura à donner à ce procureur de la République. Alors après, concrètement, j'avoue que j'ai pas de recul là-dessus, d'expérience particulière.
Moi non plus. Je l'ai vu dans les procédures. C'est des PV qui font une demi-page où le gardé à vue dit non, j'ai pas d'observation sur la prolongation de la garde à vue. Et c'est difficile d'en avoir de toute façon.
Et alors, il a un dernier droit, le gardé à vue, c'est celui de consulter dans les meilleurs délais ou plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, le procès-verbal constatant son placement en garde à vue, l'éventuel certificat médical qui a établi par le médecin qu'il aura vu éventuellement, et les procès-verbaux de ses propres auditions. Donc il peut consulter tout ça. Qu'est-ce qu'il en fait une fois qu'il les consulte?
Je sais pas. Ouais, ça c'est pareil. C'est des choses de toute façon que, dont il a déjà connaissance. Je vois pas bien l'intérêt de rajouter ça si ce n'est de, je sais pas.
C'est pour donner une impression de transparence. Voilà, on te montre tout, mais pas tout à fait tout, parce que le reste du dossier pénal, il n'y a pas.
On te montre tout ce que tu sais déjà.
Voilà, c'est ça. Donc c'est une fausse information. Ok.
Et juste une petite précision, je ne crois pas qu'on l'ait dit tout à l'heure. Peut-être attirer l'attention aussi sur le fait que le médecin qui va faire le certificat médical, c'est uniquement sur la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue. Notamment en cas d'interpellation un peu musclée, si on souhaite faire constater des séquelles physiques ou psychologiques, c'est pas ce médecin-là qui va pouvoir le faire. Donc voilà, dès la sortie de garde à vue, bien penser, si c'est le cas, à aller voir un médecin pour le faire constater, parce que c'est pas ce médecin-là qui pourra le faire.
Certains le font. Ouais. Ça arrive de voir dans les procédures, je ne veux pas te contredire, mais ça arrive de voir dans certaines procédures, effectivement, que le médecin qui a été appelé peut constater des ecchymoses, etc. Ouais.
Mais il dépasse du coup sa mission, il décide aussi de dépasser un petit peu
C'est pas une mission judiciaire, le médecin. Ouais.
Oui, donc en fait, il constate ce qu'il veut.
Le médecin, il a une mission de médecin, donc ce n'est pas un organe judiciaire. Il est libre, à mon sens, par rapport à...
Et est-ce que moi je me demandais, est-ce que ça permet de faire un peu un état des lieux de son physique? Par exemple, du coup, si t'arrives en garde à vue, tu t'es pas fait...
Tu profites de faire un check-up,
tu veux dire? Éventuellement, tu t'es pas fait tabasser par les flics, ouais, c'est ça, non? Mais tu t'es pas fait spécialement tabasser par les flics pendant ton arrestation. Non. Est-ce que ça, l'avantage de voir un médecin, c'est de dire, bon, bah, là, je suis arrivé en garde à vue, j'ai pas d'équimose
sur... Ah, pour faire l'avant-après?
Ouais, c'est ça, et qu'après, si... Je sais pas si on se fait frapper pendant sa garde à vue, ce qui arrive quand même. Ça permet, le constat du médecin peut servir en disant je suis arrivé en bonne santé, je ressors.
Je pense que ça va dépendre du médecin là en pratique.
Oui, c'est compliqué. C'est du jamais vu en tout cas. Enfin bon, j'ai pas non plus un passif immense derrière moi, mais moi c'est du jamais vu. Ouais. C'est-à-dire que justement, si le médecin note rien, ce sera plutôt normal. Même s'il y a quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure, s'il note rien. C'est normal puisqu'il n'est pas là pour constater les blessures. Donc après, ça va être difficile de
prouver qu'en fait il y avait des blessures et que
d'accord.
Ou qu'il n'y en avait pas juste
parce qu'il n'est pas censé le
faire.
Oui, voilà, c'est ça, oui.
Ok.
Alors du coup, là, on a parlé un peu du cadre juridique de la garde à vue, mais bon, ce qui est intéressant quand même pour les gens qui peuvent être placés en garde à vue, c'est les conditions matérielles de la garde à vue. Donc comment ça se passe au niveau matériel?
Je pense aux fumeurs comme moi. C'est la cigarette, ça va être un instrument un petit peu pour certains policiers de dire non, tu fumes pas, c'est interdit de fumer dans les locaux. Et puis encore une fois, ce qui est vrai.
Non, mais juste, je replace le cas juridique.
Mais parfois, dans la confidence aussi du policier sympathique qui va venir te voir alors que son précédent collègue très méchant était déjà venu te voir, lui, il va te dire écoute, on va mettre d'eau dans notre vin, tu vas pouvoir fumer une cigarette. Mais voilà, enfin voilà, dans ces techniques-là. Mais ils n'ont pas l'obligation, de toute façon, de te faire fumer. Alors, quand on est placé en garde à vue 48 et plus, c'est extrêmement compliqué et c'est pas évident. Après, dans la majorité des cas, sur les longues gardes à vue, les fumeurs peuvent fumer. Je le dis parce que c'est vrai.
Ça veut dire que les flics payent leur clope ou... Parce que si t'avais pas de clope sur ton arrestation.
Les flics peuvent payer leur clope, oui, c'est assez fréquent. L'avocat aussi.
Et après...
L'avocat fumeur, pardon.
Après, des trucs tout bêtes, est-ce que le garde à vue, il a le droit d'aller aux toilettes? Est-ce qu'il a le droit de manger? Est-ce que tout ça?
Non seulement il a le droit, mais c'est une obligation pour les services d'enquête de s'assurer qu'il s'alimente, qu'il se repose, qu'il peut aller aux toilettes, évidemment. Oui, voilà. Les menottes, je vois qu'on a noté une menotte sur notre petite fiche mémotechnique. Un truc important, quand on est en audition, on a souvent à s'insurger qu'on est encore sous entrave pendant l'audition. Je me suis énervé plusieurs fois et puis au bout d'un moment, je suis quand même allé voir les textes. Ils n'ont pas l'obligation d'enlever les entraves pendant l'audition. Là encore, souvent, ils commencent en laissant les menottes et puis quand ils voient que ça se passe bien, ils commencent à enlever les menottes. S'ils ne le font pas, ce n'est pas toujours contre le gardé à vue. C'est aussi qu'il y a eu des suicides qui ont pu se passer pendant les auditions, assez récemment au commissariat du 3-6 notamment. Et là, on peut comprendre effectivement que ça légitime le fait que les entraves... soit maintenu.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Alors, dans l'hypothèse où le gardé à vue a accepté, enfin a décidé de faire valoir son droit à un avocat, concrètement, l'avocat se déplace lorsqu'il est informé. Il a droit à un premier entretien de 30 minutes. Par contre, je précise que l'avocat n'a pas accès au dossier. Enfin, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est un élément important à retenir parce qu'en fait, j'imagine quand on est garde à vue, j'avoue, ça m'est jamais arrivé, qu'on a un peu l'impression que l'avocat, il va savoir beaucoup plus de choses sur le contenu du dossier et c'est pas le cas. Il sait plus de choses sur la procédure, sur les risques, sur l'expérience qu'il peut avoir, mais pas là-dessus. Il a simplement accès au procès-verbal de notification des droits, donc vérifier que cette notification du droit a bien eu lieu, donc tous les droits qu'on vient de citer. La raison pour laquelle la personne a été placée en garde à vue et éventuellement s'il y a déjà une audition, il peut lire le procès verbal d'audition. Donc en fait, c'est un peu les mêmes documents qu'il a accès que le gardé à vue peut consulter ensuite. En pratique, comment ça se passe quand on arrive, quand on est de permanence par exemple et qu'on arrive voir un gardé à vue?
Plusieurs cas de figure. Le premier qui me vient à l'esprit, puisque je pense qu'on est là pour donner des conseils, ne testez pas votre version des faits sur l'avocat. C'est extrêmement pénible parce qu'on a que 30 minutes pour vous conseiller. Si vous, je pense qu'il faut dire la vérité tout de suite à l'avocat. L'avocat, il vous conseillera pas forcément de dire la vérité. Si on peut esquiver, on esquive. C'est aussi ça le métier d'avocat. Donc ne testez pas votre version parce que parfois elle paraît très belle comme ça pour un avocat qui ne connaît pas le dossier. Elle paraît tout à fait plausible. On va vous dire ok, si c'est ça, on y va, on fonce, on dit ça. Puis on se rend compte que les policiers, ils ont tout un tas d'éléments qui font que la version est absolument ridicule. Et là, on a perdu encore une fois une bonne occasion de se taire. Donc 30 minutes, c'est très court. Parfois, c'est simplement essayer de rassurer les gens et on n'arrive pas à aller bien plus loin.
Mais est-ce que, par exemple, les flics écoutent l'entrevue avec l'avocat? Est-ce qu'ils, j'imagine qu'il n'y a pas de micro directement, mais est-ce qu'ils tendent l'oreille vers la porte?
Non, ça c'est... Non, je pense pas.
Et puis même matériellement, ils ne peuvent pas le faire parce que c'est souvent deux personnes, je crois, qui gardent les lieux, en fait, des gardés à vue. Donc même matériellement, en fait, c'est pas tellement possible. Et bien sûr, on l'a pas rappelé, mais l'entretien est confidentiel.
Ok.
Quoi d'autre?
Moi, par exemple, je me posais une question. Peut-être vous y avez répondu, mais je suis pas sûr. Est-ce qu'on a besoin de connaître le numéro de téléphone portable de son avocat pour qu'il vienne, si on choisit pas un commis d'office et qu'on connaît un avocat, ou est-ce que juste on dit, je voudrais contacter maître machin truc?
Ils ont le listing de tous les avocats au barreau de Lyon, qui est pas toujours à jour. Donc, effectivement, si vous sentez que vous pouvez être placé en garde à vue très prochainement, gardez avec vous la carte de votre avocat préféré ou retenez bien son numéro, c'est mieux, c'est toujours mieux.
Ok.
Alors que une avocate s'est endormie.
C'est où, on passe aux auditions?
Les auditions.
D'accord, donc alors les auditions, donc on se... Voilà, comment se passe la première audition et les auditions qui suivent?
Ah, question. C'est à toi ce...
Quelles sont les différentes auditions? Quelles sont les différentes étapes au cours de la garde à vue?
Ce qui se passe en tout premier lieu quand on a une audition, c'est vérification d'identité, des questions. Est-ce que vous avez fait le service militaire? Est-ce que vous avez un droit de port d'armes? Est-ce que vous avez le permis? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Etc, etc. Pas des questions très importantes. Il y a une question qui est importante, c'est est-ce que vous êtes déjà connu des services de police? Si c'est le cas, dites oui, parce que de toute façon, ils ont tout votre pédigré. Donc, ça sert à rien de commencer tout de suite l'audition par un mensonge. Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire, être connu des services de police?
Ça va vite.
Si, bah, en général, ils n'ont pas chaque placement en garde à vue, forcément. Quoique. Mais être connu des services de police, c'est avoir été mis en cause dans un dossier.
Voilà. D'accord.
Même si ce n'est pas allé jusqu'au tribunal. Après.
Du coup, ça vaut peut-être presque le coup de dire non et après dire ah, mais je pensais qu'au bout d'un an, on pouvait dire non.
Ouais, c'est pas bête ce que tu dis, effectivement. C'est surtout si tu as déjà été condamné. Déjà passé devant un tribunal correctionnel, là oui, il faut dire oui. Si c'est un simple placement en garde à vue d'il y a 5 ans, non, effectivement, t'es pas connu des services de police.
Et par exemple, avec la prise d'empreintes, une fois que les empreintes ont été prises, est-ce qu'on est forcément connu des services de police ?
Oui.
Ouais.
Oui. Une fois qu'on est inscrit au fichier. Alors ça, c'est un débat qui mériterait plus de temps, mais je crois que c'est prévu.
On avait prévu de faire une autre émission, effectivement, sur les fichiers, également la question de l'ADN, parce que l'ADN peut être prélevé pendant la garde à vue. Si on refuse, ça peut être constitutif d'un délit en tant que tel. Mais par contre, l'ADN ne peut pas être prélevé pour toutes les infractions. Il y a une liste spécifique, mais effectivement, c'est une question assez vaste. Du coup, on s'était dit qu'on referait une autre émission sur ce point-là.
Et est-ce que, du coup, en bref, moi, je me demande juste, est-ce que c'est possible de refuser la photo, la prise d'empreinte et l'ADN. Est-ce que si on le refuse, ça rallonge la garde à vue, parce que souvent c'est quand même ce qu'ils disent. Voilà. Ou est-ce que ce qu'on risque juste, c'est de se taper un autre procès plus tard pour ce refus-là, enfin pour ces refus-là.
Non, ça va prolonger ta garde à vue si tu refuses, parce que ils vont tout de suite te mettre ce qu'on appelle une garde à vue supplétive, c'est-à-dire qu'ils vont te reprocher immédiatement autre chose, un nouveau délit pour lequel il va falloir faire une nouvelle audition. Éventuellement attendre une nouvelle fois ton avocat. Donc oui, ça va prolonger.
Ça peut, parce que c'est déjà arrivé que non.
Comment
quand, si je dis ça peut.
Ça va prolonger, certainement.
Moi, j'ai déjà vu où c'était pas arrivé, pardon. Où plusieurs personnes mis en garde à vue en même temps, d'autres qui refusent pas les prélèvements, d'autres qui refusent les prélèvements, et les personnes sortent en même temps.
D'accord. Tomber sur des policiers quand
ça arrive. Trop de monde, tout ça, des fois.
Ouais, trop de monde, ouais, exactement.
Effectivement, si c'est une arrestation où il y a plein de monde en même temps, peut-être ça peut jouer aussi, quoi. Enfin, c'est pas exclu.
Par contre, sur l'ADN, ça n'exclut pas, même si tout le monde repart en même temps, que par la suite, il y a une convocation pour le délit spécifique prélèvement ADN, quand bien même, d'ailleurs, la procédure pour laquelle on avait été placé en garde à vue à la base aboutirait à rien du tout, un classement sans suite, à aucune démarche. Le fait d'avoir refusé pendant une garde à vue, quand bien même, elle n'était pas légitime, peut donc engendrer par la suite une autre convocation. Je l'ai déjà vu aussi, malheureusement.
Et sur la durée de l'audition, est-ce qu'elle est réglementée ? Enfin, est-ce qu'il y a par exemple une durée maximum d'audition ?
Non.
Les horaires d'audition ?
C'est pas prévu. Non, c'est pas prévu. Il m'est arrivé de voir une audition qui s'est passée de nuit, de 2h à 6h du matin. Voilà. Ah ouais. C'était la police des polices, pour information.
Ils sont pas gentils.
Mais surtout, ils savent que déjà le policier connaît les stratégies, donc il fallait vraiment loin pour essayer de.
Ça aussi. Non, mais c'est vrai que parfois les gardés à vue sont épuisés. Hein. C'est compliqué.
Parce que dans le cadre d'une garde à vue de 24 heures, il peut y avoir une, deux, trois auditions. C'est très aléatoire en fonction des faits, comment ça se passe.
Ouais, si c'est une garde à vue de 24 heures, il n'y aura qu'une audition, je pense. Ouais. Une, voire deux, mais ça ira pas bien au-delà.
Et les confrontations ?
Les confrontations, c'est même système. L'avocat, il faut qu'il soit présent parce qu'il peut poser des questions à l'autre personne confrontée. Ce qui peut être intéressant, notamment quand il y a des outrages, rébellions avec des policiers qui ont été un peu musclés. Là, ça peut être très intéressant parce que souvent, on a quatre policiers qui servent mot pour mot la même version. Et puis, on se rend compte que celui qui interroge, il se tutoie entre eux, il s'appelle par le prénom, etc. Et que ce n'est pas retranscrit. Donc là, il faut être vigilant et puis faire un mémoire.
Ah oui, et donc là, à ce moment-là, l'avocat, il a quand même plus de pouvoir.
Sur les confrontations, je pense que c'est là où il est le plus important, l'avocat.
Oui, parce que du coup, au cours des auditions, il peut poser des questions, faire des observations. Mais est-ce qu'en pratique, il faut le faire ? Enfin, pour le coup, c'est plus la stratégie de l'avocat. Mais pourquoi est-ce que l'avocat choisit ou pas de faire des observations ou de poser des questions ?
Poser des questions, c'est compliqué parce qu'on voit la personne 30 minutes. On va poser une question sur un dossier qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas la réponse, donc c'est souvent à double tranchant. Donc vous allez souvent avoir un avocat à côté de vous qui ne va pas dire grand-chose, qui va prendre quelques notes et qui fera ni observation et qui ne posera pas de questions. C'est très souvent ce qui se passe et à mon avis c'est sage. Faut vraiment se méfier des questions qui peuvent se retourner après contre le gardé à vue qu'on est en train d'assister, quoi. Voilà.
Vous aviez une question par rapport à l'audition libre, donc peut-être on va sur la garde à vue, on en on en reste là, même s'il y aurait plein de choses à dire encore, je crois. Mais du coup, peut-être, pour distinguer la garde à vue, l'audition libre, voilà un peu quelles sont les différences et les droits qu'on peut avoir en audition.
Alors, très brièvement, sur l'audition libre, alors, c'est une nouvelle mesure, c'est assez récent en droit national. Les conditions de mise en œuvre d'une audition libre, c'est à peu près les mêmes que la garde à vue. On est soupçonné d'avoir commis une infraction.